Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Avec Quentin Dickinson, nous tirerons le bilan d'un sommet européen de Bruxelles qui a évité de définitifs déchirements, mais qui n'a pas rompu avec les inerties et renoncements quant à l'accueil des réfugiés. Réaction outrée de MSF dans cette édition. Également au sommaire, les circonstances dans lesquelles le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel a été la cible d'un attentat suicide à Sévaré au centre du Mali. Récit de Christelle Pire. L'analyse du chercheur René Lefort sur un possible apaisement, voire rapprochement entre Éthiopie et Érythrée. Et enfin la suite de nos reportages dédiés depuis ce matin à la colère des auteurs français qui disent être méprisés par leurs éditeurs et par les futures réformes fiscales et sociales du gouvernement. Quand les pays d'Europe centrale crient victoire, leurs partenaires de l'Ouest prétendent avoir évité le pire au terme d'un sommet européen qui se referme ce soir sur bien des incertitudes et des positions figées. Quid de ces centres d'accueil contrôlés pour les réfugiés, où les construire ? Emmanuel Macron martèle que la France n'ouvrira pas de telles structures sur son sol, le chef de l'État français d'ajouter qu'elles doivent être basées dans les pays de première arrivée. Vive réaction du chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, qui dément cette affirmation et articule Emmanuel Macron devait être fatigué quand il a lu les textes, fin de citation. Et il y en eut des frictions et des écarts, en premier lieu sur le sauvetage et l'accueil des réfugiés, Quentin Dickinson. On écoute tout de suite Quentin Dickinson. Quentin Dickinson qui manifestement a quelques difficultés à répondre à nos questions. On l'écoute, c'est fait. Quentin Dickinson.
Là où les 28 ont le plus risqué une sortie de route, c'est évidemment sur le dossier de la gestion des flux migratoires. La difficulté, c'est que c'était en fait populisme contre populisme, les Italiens réclamant la solidarité des autres, opposés aux quatre d'Europe centrale qui n'en étaient guère généreux. À la fin, Rome a obtenu les trois quarts de ses exigences et le groupe de Visegrad n'a rien eu à céder. Un petit dérapage aurait pu se produire sur le renouvellement des sanctions contre la Russie du fait de la présence militaire de cette dernière en Ukraine, mais les suspects habituels de sympathie moscoutaire se sont tus. De même, on redoutait un freinage intempestif des Polonais assez réservé vis-à-vis d'une ligne dure à l'encontre de Washington dans la confrontation commerciale en cours. Ils n'ont même pas effleuré la pédale. Traditionnellement, les Britanniques serraient discrètement le frein à main dès lors qu'il était question d'une Europe de la défense, mais ici, ils ont surtout souligné qu'ils entendaient y participer si on voulait encore d'eux après le Brexit. Enfin, il y a 6 mois, on prévoyait une collision frontale entre Paris et Bonn sur le renforcement de la zone euro, mais la récente rencontre de Meseberg entre la chancelière et le président a permis qu'il fasse route de concert aujourd'hui.
Quentin Dickinson, à Bruxelles, un nouveau drame est survenu au large des côtes libyennes. Une centaine de réfugiés, dont 3 nouveau-nés, ont péri noyés. 14 d'entre eux ont pu être secourus. Un nouveau drame, faute de moyens. D'où la colère des ONG au terme d'un sommet un de plus sans mesures concrètes ni prise de conscience. Maureen Mercier, notre envoyé spécial sur l'Aquarius, devenu bien malgré lui un symbole des renoncements européens en matière d'accueil des exilés, a sollicité Aloïs Vimard de Médecins sans frontières.
On observe que les États membres de l'Union européenne, ils abdiquent devant leur responsabilité de sauver des vies en mer. Et ils condamnent en fait les personnes vulnérables soit à être bloquées en Libye, coincées dans des conditions inhumaines qu'on connaît en fait aujourd'hui, on peut plus le cacher, ou soit à périr en mer. Et c'est ces mêmes dirigeants qui condamnaient les rapports il y a quelques mois faisant état d'esclavagisme en Libye, mais aujourd'hui ils n'ont aucun problème à maintenir ces personnes vulnérables dans ces conditions, et pourtant la situation en Libye n'a pas changé. Sauver des vies en mer n'est pas un crime, et pourtant le message des gouvernements européens aujourd'hui est clair. Et l'assistance humanitaire n'est pas la bienvenue. Donc c'est extrêmement douloureux. On nous pousse à tourner le dos à des personnes en détresse. MSF demande au gouvernement européen de faire preuve d'un minimum de décence et rappelle en fait qu'il s'agit de vie humaine et simplement de souffrance.
Aloïs Vimard de MSF sur l'Aquarius. Attentat suicide contre le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel à Sévaré au centre du Mali. Au moins 6 morts selon un dernier bilan. Attaque manifestement préparée qui à 2 jours du sommet de l'Union africaine en Mauritanie pose la question, et le président français attendu lundi à Nouakchott n'y coupera pas, de la montée en puissance de cet attelage militaire. C'est une correspondance de Bamako de Christelle Pire.
L'attaque, qualifiée de terroriste par les autorités, a eu lieu aux environs de 14 heures. La moitié du personnel du camp était en pause et donc absent. Il y a tout d'abord eu des tirs de roquettes sur le camp, puis un véhicule piégé a réussi à passer les barrages de sécurité et à s'approcher du portail où il a explosé. La détonation a été très violente, on l'a entendu à plusieurs kilomètres à la ronde. et cette explosion a permis aux assaillants de pénétrer dans la cour principale. Des échanges de tirs nourris avec les militaires ont ensuite suivi. Les dégâts sont importants, un bâtiment a été totalement détruit, plusieurs autres sont très endommagés. Cet attentat complexe montre encore une fois la capacité d'organisation des groupes terroristes dans le centre et le nord du Mali. Ils ont réussi à viser, en pleine ville, en pleine journée, un lieu symbolique et sécurisé, le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel, une force qui est censée lutter contre les groupes terroristes au Sahel. Cette force, déjà attaquée, alors même qu'elle tarde encore à être pleinement opérationnelle sur le terrain. Depuis octobre dernier, elle n'a mené que 3 opérations majeures aux frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et cela à cause notamment de la lenteur pour débloquer les fonds et de la difficile coordination entre les différentes armées.
En Syrie, les forces du régime reproduisent dans la province de Deraa ce qu'ils ont pratiqué au sud de la capitale, Damas. Après d'intenses bombardements menés avec leurs alliés russes, de nature à morceler les positions tenues par la coalition du sud, les troupes gouvernementales dépêchent des émissaires, russes la plupart du temps, chargés de négocier un accord dit de réconciliation, moyennant un désarmement des combattants. Il est 22h06, vous écoutez le journal de France Culture. Des affrontements interethniques ont fait 10 morts dans l'ouest de l'Éthiopie. Les Nations Unies ont livré ces données hier. Elles disent les heures politiques incertaines que croise le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, dirigé depuis peu par Abiy Ahmed, premier ministre d'ethnie Oromo. Abiy Ahmed qui parcourt le pays en prononçant des discours dont l'enthousiasme est susceptible de séduire la jeunesse. 45% de la population a moins de 18 ans. Abiy Ahmed qui vient de libérer des opposants, qui a levé l'état d'urgence, bouscule les usages politiques. Il vient aussi de tendre la main aux voisins et ennemis érythréens. Les deux pays sont en guerre depuis 20 ans. Nous sommes, comme convenu, en ligne avec René Lefort, chercheur indépendant. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
René Lefort, Abiy Ahmed vient de proposer à l'Érythrée, dirigée par Isaias Afewerki, d'enfin quitter la ville de Batmé, conformément aux injonctions d'une commission d'arbitrage. En quoi est-ce, selon vous, un geste significatif ?
C'est très significatif parce que l'Éthiopie et l'Érythrée, depuis leur guerre de 98-2000, vivaient dans un état de ni guerre ni paix. Alors la position des Éthiopiens était « nous acceptons la délimitation frontalière décidée par la Commission internationale en principe, mais on va discuter sa mise en pratique ». Les Érythréens, eux, disaient quitter les territoires occupés, entre guillemets, dont Batmé est le symbole, le matin, et nous négocierons l'après-midi. Bon, là, chacun des deux camps a fait un pas en avant très important. Les Éthiopiens, en reconnaissant définitivement et formellement la décision de la Commission internationale, donc qu'ils s'engagent à quitter les, entre guillemets, territoires occupés, et les Érythréens, en acceptant de négocier avant même cette évacuation pratique.
Alors, y a-t-il des motivations et des intérêts économiques pour les deux pays ?
Il y a des motivations, des intérêts économiques et puis il y a aussi des facteurs politiques importants. Si vous voulez, cette normalisation ou cette tentative de normalisation, elle répond à des facteurs à la fois internes et externes. Le facteur externe, c'est que depuis plusieurs mois, les Américains, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc. poussaient l'Éthiopie et l'Érythrée à normaliser leurs relations. Ils veulent une Corne de l'Afrique stabilisée et surtout une Éthiopie qui retrouve son rôle majeur de gendarme de la Corne de l'Afrique.
Et de pôle de stabilité aussi.
Pardon ?
Et de pôle de stabilité aussi.
Oui, et de pôle de stabilité pour en particulier résoudre les questions du Sud-Soudan, de la Somalie, etc. etc. Et dans ce cadre-là, une normalisation avec l'Érythrée était indispensable. Ça, c'est les facteurs externes. Les facteurs internes, ça tient essentiellement à des facteurs économiques. L'Éthiopie a subi une crise économique importante avec en particulier une crise de devises étrangères énorme. La dernière visite des Émirats Arabes Unis s'est conclue par 3 milliards de dollars mis sur la table. Bon, l'Érythrée, elle est exsangue, hein, puisqu'elle a été pratiquement mise au banc des nations pendant des années et des années. Alors, elle est sortie un tout petit peu de son isolement à travers quelques investissements étrangers et puis surtout en servant de base arrière à la coalition anti-houthiste. Mais elle a un besoin urgent, elle aussi, d'une aide économique et d'investissements étrangers pour essayer, enfin, de sortir du marasme dans lequel elle est plongée et, entre autres, essayer de freiner l'exode de sa jeunesse, puisque je pense que l'Érythrée, proportionnellement à sa population, doit être, après la Syrie, le pays qui a le plus de jeunes qui s'enfuient.
Justement, j'allais y venir, René Lefort. Est-ce que ces rapprochements, ces tentatives, ces gestes de rapprochement, pour les nommer comme tels, sont de nature justement à aller au bout de ce dossier de ces milliers d'Érythréens qui fuient le pays pour essayer de traverser la Méditerranée ?
Écoutez, il y a deux choses différentes. Hein. La normalisation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est une normalisation d'État à État. Hein. Ça ne préjuge en rien de ce qui deviendra en matière de politique intérieure dans chacun de ces deux États, que ce soit en Éthiopie ou en Érythrée. Bon, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant en Érythrée, le grand argument de la dictature était « nous sommes obligés d'être dictatoriaux parce que nous sommes en guerre ». Bon, que la guerre s'arrête et on pourra à ce moment-là un petit peu lâcher ce qu'on tient d'une main de fer. Bon. Est-ce que si la normalisation entre Éthiopie et Érythrée se produit, le régime de Isaias Afwerki à Asmara va lâcher du lest? Ça, on n'en sait rien et seul l'avenir nous le dira.
Est-ce que le pouvoir, justement,
dans ce cas-là, effectivement, la question de l'immigration pourrait se poser dans un cadre radicalement différent.
Est-ce que le pouvoir érythréen et sa garde prétorienne ont intérêt à faire cesser la guerre?
Mais c'est toute la question qu'on se pose. C'est toute la question qu'on se pose, puisque justement, ils tiennent du fait de cet état de ni guerre ni paix. Bon, en même temps, on peut y faire un rêve, hein, imaginer que Isaias Afwerki est devenu raisonnable. C'est-à-dire qu'il s'est quand même rendu compte que son pays ne pouvait pas continuer comme ça, ad vitam aeternam, hein, et que donc, il fallait bien qu'un jour ou l'autre, il lâche du lest, avec comme conséquence principale d'arrêter cet exode de la jeunesse qui est dramatique pour ce pays.
Je vous remercie infiniment, nous vous remercions infiniment, René Lefort, d'avoir accepté notre invitation. Merci de vos explications. Les représailles canadiennes aux lourdes majorations douanières américaines sur l'acier et l'aluminium, représailles d'un montant de 16,6 milliards de dollars US. Le gouvernement de Justin Trudeau a dans le même temps fourni plus d'1,5 milliard de dollars d'aide aux industries canadiennes fragilisées par le protectionnisme de Washington. Abondante, l'édition française pour l'année 2017. 100 000 livres parus l'année dernière, dont la moitié de nouveautés. Et pourtant, les auteurs disent être méprisés par leurs éditeurs et par les futures réformes fiscales et sociales du gouvernement. La rédaction de France Culture vous propose depuis ce matin de vous expliquer cette mobilisation d'artistes-auteurs qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux et dans la rue pour tenter de remettre les créateurs au centre de l'économie de la culture. Cécile de Kervas-Doué.
Paye ton auteur, plume pas ton auteur, auteur en colère. Les mots dièses ont fleuri sur les réseaux sociaux depuis l'automne dernier. Ce sont les auteurs du livre qui les ont lancés, mais ils ont été rejoints depuis par les artistes auteurs, c'est-à-dire illustrateurs, graphistes, compositeurs, plasticiens, chorégraphes, qui sont 270 000 en France à partager le même statut spécifique. Un statut qui répond souvent à leur précarité, puisqu'il faut savoir qu'en France, un auteur de livre, par exemple, reçoit moins d'un huitième du prix de son œuvre, le reste allant aux éditeurs, diffuseurs et libraires. Le syndicat national du livre a beau rappeler que les droits d'auteur ont augmenté l'année dernière de 1,64%, c'est insuffisant, clament les auteurs, surtout face aux réformes qui visent à les faire passer au régime général dès le 1er janvier prochain, avec prélèvement de l'impôt à la source, quand les auteurs ne sont souvent payés qu'une fois par an, hausse de la CSG mais sans compensation systématique et cotisation en retraite dès le 1er euro perçu. Après avoir demandé pendant des mois à discuter de ces réformes, une vingtaine d'organisations d'auteurs a été reçue mercredi soir au ministère de la Culture par Françoise Nyssen, qui assure que la défense des auteurs et des artistes et son grand combat.
Il était urgent de rassurer la communauté des artistes et des diffuseurs et des auteurs sur notre détermination à accompagner les transformations techniques. Nous voulons être à leur côté et qu'ils aient un régime spécifique et de qualité.
D'autres concertations de ce type sont prévues deux fois par mois au ministère d'ici la mise en place des réformes pour tenter de garantir un niveau de vie digne aux auteurs. Reste à savoir si le reste du gouvernement sera ou non sensible à ces revendications.
Cécile de Kervas-Doué, pour retrouver l'histoire complète de cette mobilisation, rendez-vous en une de notre site franceculture.fr. Vous y trouverez également notre hashtag reportage multimédia interactif avec nombre de témoignages de professionnels de la chaîne du livre. Quelques mots de la météo de demain samedi. La chaleur gagne l'est du pays. Le préfet du Rhône a déclenché une vigilance orange canicule, dégradation nuageuse et parfois orageuse sur la façade atlantique. Les températures maximales comprises demain entre 21 et 36 degrés. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Kevin Boisseau.